Bah c'est parti.
Le Sonolab.
Le Sonolab.
Sonolab.
Le laboratoire sonore de Jet.
Des ateliers sur mesure pour questionner, comprendre, écouter et pratiquer avec le son.
Sonolab.
Bonjour et bienvenue dans l'émission du Sonolab sur Jet FM 91.2. Cette semaine, nous écoutons les productions sonores réalisées par les élèves de première, option cinéma, du lycée Guistot à Nantes. L'équipe de Jet a animé une masterclass avec eux autour de la question de l'interview. Les élèves ont réalisé des interviews de A à Z autour de la thématique cinéma et politique. Au programme de cette masterclass, une séance d'écoute et de décryptage d'interview animée par moi-même et mon collègue Henri, et puis des conseils méthodologiques. Ensuite, les élèves sont partis sur le terrain, ils ont pris contact avec des professionnels du monde de l'audiovisuel, et puis ils ont réalisé leur interview. On s'est retrouvés ensuite au lycée, où j'ai animé une séance d'écoute des rushs et d'initiation au montage. Les élèves ont ensuite réalisé leur montage en autonomie. On s'est encore une fois revus au lycée pour une séance d'écoute critique de leur ours, donc de leur pré-montage. J'étais cette fois-là accompagnée par Eliam, qui est en mission de service civique au Sonolab et qui a fait des remarques très très pertinentes pour faire avancer les montages des élèves. Et puis les élèves ensuite ont finalisé leur montage en autonomie et sont venus visiter les locaux de Jet. Là, nous avons réalisé une écoute de leur projet finalisé. Et puis on a un petit peu joué à l'arroseur arrosé, puisqu'Eliam a réalisé des interviews des élèves pour leur poser un petit peu des questions sur leur rapport au cinéma et sur la question de cette question-là et aussi sur cette thématique de l'engagement dans le cinéma. Quel était leur rapport à ça? Je félicite les élèves pour leur implication dans la masterclass et les projets réalisés et puis je remercie Florine Renard et Franck Rabu pour leur confiance puisqu'on renouvelle régulièrement des masterclass thématiques avec leur option cinéma. Aujourd'hui, nous écoutons le cinéma d'impact. C'est une interview réalisée par Violette, Adélaïde, Émilie et H. Elles ont rencontré Giulia Boccato, qui travaille dans le milieu de l'audiovisuel depuis de nombreuses années et qui travaille actuellement pour l'association BIM, Best Impact Movies. C'est une approche de l'engagement très libérale et moderne qui traverse cette interview. On écoute et on se retrouve après.
Je suis Giulia Boccato et je travaille dans le cinéma depuis de nombreuses années, le cinéma et l'audiovisuel. Alors, on a créé deux structures il y a maintenant 2 ans. La première qui s'appelle BIM, Best Impact Movies, qui accompagne des films dans leur diffusion et par le biais de campagnes d'impact. Et la deuxième qui s'appelle Impact Social Club et qui, elle, a pour mission de fédérer la filière impact, production d'impact en France et dans les pays francophones. On a créé BIM il y a 2 ans maintenant avec des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel en suivant notre grand frère qui s'appelle Doc Society, qui est une structure qui existe en Angleterre et aux États-Unis et qui avait à l'époque, qui était parti du constat, il y a une dizaine d'années, qu'une fois le film créé, alors généralement des documentaires engagés, et surtout des documentaires engagés, il peut parfois s'agir de fiction, mais c'est très rare, qu'advenait-il des protagonistes? C'est-à-dire qu'on montre les films sur des sujets d'actualité forts, avec des questions politiques, des questions... ça peut être la question de droits humains, justice environnementale, etc. Les films font le tour de festivals, sont montrés en salle, sont montrés en télé, etc. Et finalement, les protagonistes et la cause qu'ils défendent ou leur situation extrême sont oubliés et laissés de côté. Notre travail chez BIM, comme chez Doc Society, donc, c'est d'amener... de prolonger la diffusion des films, mais d'une autre manière, en dehors des festivals ou en dehors des salles habituelles ou des dispositifs comme vous connaissez certainement, lycée apprenti au cinéma, etc. C'est de montrer les films à un endroit où ils peuvent changer les choses. Donc ça veut dire le Parlement européen, ça veut dire l'ONU, ça veut dire voilà, auprès de juristes internationaux s'il est question des droits humains, comme je le disais. Par exemple, chez BIM, on a plusieurs profils. On a Khadija Benouataf qui vient du journalisme. On a Julia Ahmed Jama, d'ailleurs qui travaille pour les trois continents aussi, qui est australienne et qui, elle, est professeure, universitaire, etc. On a aussi deux jeunes femmes qui sont Karine Bedoya et Jessie Petray, qui sont dans le... dans le Pays Basque, et elles sont vraiment spécialistes du développement durable. Donc ce ne sont pas des professionnels du cinéma. Mais à travers les points et les leviers et les valeurs du développement durable, on retrouve des connexions avec ce qu'est la production d'impact. Puisqu'on injecte quand même, à un moment donné, on essaie de, mine de rien, s'en approcher tout simplement, et pour la bonne raison, que de toute façon, c'est simplement voilà, le respect de la vie, l'engagement pour une société meilleure, etc. Moi, je pense que là où on aura atteint nos objectifs à un moment donné, c'est quand la production d'impact sera partie prenante, transversale, dans ce qu'est la production, et enfin la création, la production et la diffusion d'un film. Quand voilà, il y aura une prise en compte totale et que ça fera partie de son ADN. Pour l'instant, l'amélioration ne pourra être perceptible que dans plusieurs années, puisque ce que l'on crée, on crée une nouvelle façon d'accompagner les films, mais on crée aussi un écosystème qui n'existe pas en France. C'est-à-dire que la production d'impact, elle commence à l'écriture du film, donc dès la création du film jusqu'à sa diffusion. Et on travaille aussi, on a un autre volet qui est sur la levée de fonds privés, ce qui n'existe pas en France. Et c'est la difficulté qu'on rencontre, par exemple, actuellement, c'est de former des futurs financeurs, des ONG, par exemple, à investir dans les campagnes d'impact. Donc je ne peux pas vous dire pour l'instant s'il y a une amélioration. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le travail du producteur d'impact, c'est aussi de coordonner et d'impulser des nouvelles actions en parallèle de la diffusion du film. Donc ça peut être des capsules pédagogiques, ça peut être des actions pour visibiliser le combat qui est porté, enfin exploré dans le film, ce genre de choses. Des choses qui sont faites ou qui sont faites à moindre échelle. Nous, notre objectif, c'est d'en faire quelque chose de grand. C'est ce qu'on essaie de faire avec notre autre structure, Impact Social Club, c'est-à-dire fédérer une filière, former des producteurs, former des réalisateurs, sensibiliser des bailleurs de fonds, sensibiliser des ONG, sensibiliser des programmateurs de festivals, des salles de cinéma, etc., à ce qu'est une campagne d'impact et comment est-ce que chacun peut être partie prenante ou acteur de cette campagne. Des personnalités connues ou des mouvements, je vous dirais, si je vais dire si je vais parler de certaines personnes, je parlerai des réalisateurs avec qui on travaille déjà. Je pense à Ousmane Samasekou, qui est le réalisateur du Dernier Refuge. C'est un film qui a tourné dans les festivals internationaux, qui a été montré sur Arte, etc. Et qui, dont le sujet, enfin, c'est une photographie de la maison, d'une maison qui accueille des personnes migrantes à Gao, au Mali. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est allé chercher des images là où on ne peut pas aller en chercher, qui a montré des personnes finalement qui ne sont que des numéros pour certaines institutions internationales ou qui sont juste des petits portraits sur brut ou sur... voilà. Bon, bref, c'est déjà ça, mais il a essayé de rendre ça... Enfin, de rendre ses trajectoires de vie encore plus humaines et plus sensibles. Je pense aussi à Aïcha Maki, qui est la réalisatrice de Zinder, qui elle aussi est en plus une réalisatrice, en plus au Niger, et qui porte avec sa filmographie tout l'espoir de la jeunesse d'un pays. Donc ça, c'est des gens inspirants. Et sinon, et à lui donner toute sa valeur, à Denis Gerbrandt aussi, mais qui est aussi un réalisateur important pour moi. Et j'en passe, hein.
C'était la dernière interview de notre masterclass Cinéma et Politique réalisée avec les élèves de première option cinéma du lycée Guistot à Nantes. Cette interview a été réalisée par Violette, Adélaïde, Émilie et H. Encore bravo à toute la classe pour leur engagement dans ce projet. Et puis on écoute une dernière interview, un dernier medley réalisé par Eliam qui est en mission de service civique à Jet et qui a reçu les élèves dans les studios pour les interroger sur leur rapport au cinéma et se questionner sur l'engagement dans le cinéma. Est-ce une obligation ou non? Bah écoutez, on écoute leurs réponses. Je vous souhaite une bonne semaine sur Jet FM et à bientôt.
Je m'appelle Violette, j'ai 16 ans et j'ai pas de couleur préférée. Ouais, j'en ai pas, mais ce que j'aime bien faire dans la vie, c'est danser et dormir, faire la sieste.
Moi, je m'appelle Adélaïde, j'ai 16 ans et j'aime Taylor Swift.
Je m'appelle Émilie, j'ai 16 ans.
Je m'appelle H et j'ai 16 ans et j'aime mon chat qui s'appelle Colette.
Moi, je me souviens pas de mon premier souvenir. Mais je pense que le souvenir qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais voir au cinéma Rio, quand c'est sorti.
Quel est votre premier souvenir de cinéma?
J'étais allée voir mon voisin Totoro au cinéma. Et vers le même âge, genre 5 ans, j'étais allée voir Réponse aussi. Et ouais, je crois que c'était un peu dans la même période, ça m'a marqué.
Du coup, on l'a déjà dit, mais les films Miyazaki aussi, Ponyo sur la falaise. Et je pense les Star Wars, c'est vraiment la première série que j'ai vraiment regardée.
Moi, c'est quand j'étais petite, j'étais addict à tous les films, genre, enfin les séries genre Diego, Dora et tout, et je regardais ça en boucle. Du coup, c'est le premier vraiment souvenir que j'ai qui me marque.
Si vous pouvez vous définir avec un film, lequel ça serait ?
Le film Call Me By Your Name, parce que genre, je l'ai regardé dans une période de ma vie qui m'a aidé à comprendre genre, plein de trucs. Et du coup, je pense que c'est ce qui me définit le plus et sur lequel je pourrais plus m'identifier.
Du coup, je dirais Lady Bird de Greta Gerwig. Genre, pas tellement que je ressemble au personnage ou quoi que ce soit, mais c'est genre un peu un idéal du coming of age. Et quand je l'ai vu genre, dans ma préadolescence, je me disais que genre, j'aimerais bien que ma vie ressemble à ça plus tard. Bon, maintenant que je le regarde avec un peu de recul, je me rends compte que c'est plus du tout le cas. Mais genre, je sais pas, ça m'a vraiment marqué. Et maintenant, j'ai l'impression que ça a grave pris une place dans la personne que je suis devenue, en fait.
Bon, vu que moi, j'ai pas d'idée, c'est pas très original, mais Euphoria, parce que, en fait, il y a beaucoup les instances d'adolescence. Et que même si, enfin, personnellement, je trouve que, bah, ils sont censés avoir notre âge, mais parfois il y a des trucs qu'on ne se ressent pas dedans, par la prise de drogue excessive, etc. Mais je trouve que, par exemple, dans les relations qu'ils ont et la vision dont ils se perçoivent et bah, comment ils se perçoivent en général, par exemple, les complexes ou la dysphorie de genre ou tous ces sujets-là, bah, je trouve qu'ils sont bien expliqués et que ça permet de mieux comprendre chaque personnage et ce qu'on vit, notamment la santé mentale.
Récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Respire, et en vrai, la relation principale du film, elle est intéressante, et du coup, voilà.
Moi, il y a un film qui m'a pas mal marqué quand j'étais petite, ça s'appelle CJ7, c'est pas très connu, c'est du réalisateur Stephen Chow, et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, parce que du coup, ça m'a fait découvrir le cinéma plutôt d'Asie, et c'est mon film préféré depuis que je suis toute petite, et ça m'a fait. Bah, en fait, c'est un peu ce qui m'a lancé dans le cinéma, je pense, puisque. Ça parle d'un enfant qui est un peu démuni, qui est un peu d'une famille pauvre et qui se retrouve avec des mauvaises notes à l'école, etc. Qui a une vie compliquée, il rentre pas dans les normes scolaires, c'est-à-dire que il est pas dans la facilité d'apprendre vu qu'il habite vraiment dans une cabane. Mais c'est vraiment un film qui m'a marqué et je pense que ça m'a un peu sensibilisé sur la pauvreté dès que j'étais petite. Voilà.
Pour vous, est-ce qu'un film est nécessairement politique ?
Du coup, en fait, pas trop d'accord dans le fait qu'il y a toujours de la politique partout, parce que la politique, ça fait partie de la société, et surtout pour des films pour enfants, c'est là où l'enfant va se construire et va grandir avec ça. Par exemple, dans les dessins animés d'enfants, ça peut paraître rien, mais il y a très très peu de couples LGBT, et on peut dire oui, mais ça met de la politique partout, on peut pas y avoir. Mais ça fait quand même que ça fait que l'enfant se construit dans une société hyper hétéronormée. Et le fait de mettre des représentations de toutes les minorités dans des films pour enfants, généralement, ça va aider au fait que la société va devenir meilleure. Et ça, je trouve que c'est hyper important de pas dire oui, on peut faire des films sans politique, parce qu'en soi, c'est pas vrai, parce qu'un film va toujours forcément avoir quelque chose de politique, qu'on le veuille ou non, ça va toujours faire aboutir à quelque chose. Comme tu disais, Yuna, dans Cars, la représentation féminine, il y en a vraiment pas du tout, et quand on y réfléchit, c'est hyper important pour, par exemple, une petite fille qui va regarder Cars, qui va se dire « Ah mince, genre moi, je suis la voiture qui reste dans les tribunes à regarder les hommes en train de faire un truc. » Et ça, tu peux rigoler, mais c'est hyper important. Genre, après, quand on va dire ah, tu regardes Cars, t'es une petite fille, t'es un garçon manqué. Et ça, c'est hyper important dans la construction d'un enfant et dans le savoir de où est ma place dans la société en tant qu'enfant.
Ça dépend, en fait, du spectateur. Pour moi, c'est lui qui décide s'il y a un enjeu politique, parce que peut-être que le réalisateur, à la base, il ne s'est pas du tout posé cette question et qu'il n'a pas du tout pensé à aborder la politique. Et du coup, c'est le spectateur qui va trouver, même s'il ne fait pas exprès, forcément, il y aura toujours des enjeux politiques à trouver dans les films. Et du coup, ça donne place au débat.
En fait, pour moi, le problème, ce n'est pas le fait d'avoir un personnage homosexuel dans Buzz l'éclair, d'avoir qu'un seul personnage féminin dans Cars. C'est juste de normaliser, par exemple, le truc homosexuel dans Cars, c'est de le normaliser. On ne devrait même pas pouvoir en parler, en fait. C'est Pixar a voulu faire ça, et ils font ça, et voilà, il n'y a pas besoin de le polémiquer, en fait. De faire une polémique dessus, pardon.
Non, mais c'était juste pour un peu rebondir ce que Yuna a dit, mais sur le fait qu'il n'y ait qu'une seule femme dans Cars, c'est un peu la représentation de la société et de comment la place de la femme était perçue, du coup, où la femme se situait. Et avec le réalisateur, c'est pas dit « Ah tiens, on va mettre une femme qui est aussi forte dans la course que Cars, ou je sais pas comment il s'appelle, que Flash McQueen. » Et c'est pas forcément qu'il est sexiste, c'est juste que c'est le reflet un peu de la société. Et ça apprend en soi plein de choses sur comment la société a évolué. Et de, comme vous avez dit, de Buzz l'éclair, enfin de Cars à Buzz l'éclair, c'est qu'il y a eu une progression. Et ça, en soi, c'est bien. Et voilà.
Moi, ce que je voulais rajouter, c'est que ça dépend de l'éducation qu'on a eue quand on était jeune. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont jamais montré des films qui sont considérés pour les garçons ou pour les filles. Enfin, c'est quelque chose qui a été hyper normalisé dans ma famille. C'est-à-dire que moi, si je regardais un film où, par exemple, l'héros ou l'héroïne, c'était soit un garçon, soit une fille, moi, j'ai toujours su m'identifier et d'avoir une gamme large. Mais par exemple, c'était pas la même chose. J'ai d'autres éducations. Enfin, dans mon école primaire, si je parlais, par exemple, mon film préféré, c'est Toy Story, mon personnage préféré, c'était Buzz Lightyear, c'était en mode ah, c'est un garçon, enfin, t'es un garçon manqué. Alors que c'est pas juste ça, c'est juste un personnage préféré et c'est pas. Ça va pas plus loin que ça, quoi.
C'était une production issue du laboratoire sonore de Jet. Retrouvez tous les podcasts de nos projets au www.sonolab.fr.